Et le journal est présenté par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Le scénario du Brexit dur se renforce. Rien n'est encore sorti de la nouvelle réunion organisée au 10 Downing Street. Les partenaires du Royaume-Uni se disent maintenant prêts à cette éventualité du no deal. Pour l'OMC, il est de plus en plus urgent de résoudre les tensions commerciales. Elles pèsent sur la croissance qui devrait ralentir cette année. Explication de Marie Viennot. Le grand débat national se poursuit à l'Assemblée. Les députés font leurs propositions concernant la transition écologique et la fiscalité. Plus de 3000 personnes seraient mortes l'an dernier dans la rue. Le collectif des morts de la rue leur rend hommage et alerte une fois de plus sur la gravité de la situation. Reportage de Maud Calves. Un Brexit sans accord n'a jamais été mon souhait, mais il devient chaque jour plus probable, déclare le négociateur Michel Barnier. Et en effet, les députés britanniques ont rejeté non seulement l'accord de Brexit conclu entre Londres et Bruxelles, mais aussi toutes les autres options envisagées. Et le gouvernement, réuni aujourd'hui par Theresa May, n'a pour l'instant sorti aucune solution de son chapeau, sachant que la date butoir est dans 10 jours. Emmanuel Macron a reçu cet après-midi à l'Élysée le Premier ministre irlandais pour examiner avec lui les éventuelles conséquences d'un Brexit sans accord. Et pour le chef de l'État, l'Union européenne ne peut être durablement l'otage de la résolution d'une crise politique au Royaume-Uni. Écoutez Emmanuel Macron.
Si le Royaume-Uni n'est pas capable, près de 3 ans après le référendum, de proposer une solution qui réunit une majorité, il aura de facto choisi lui-même de sortir sans accord. Et nous ne pouvons pas éviter l'échec à sa place.
Les 27 se disent maintenant prêts à l'éventualité d'un no deal. Alors, quelles seraient les conséquences de ce Brexit sans accord, Louise Baudet?
Des conséquences très lourdes, Aurélie. Évidemment, pour le Royaume-Uni, les prévisions les plus alarmantes circulent. Jusqu'à 9 points de PIB, 57 milliards d'euros de pertes, 3 points de chômage en plus. Chiffre inquiétant, mais à aborder avec prudence, disent les économistes. Quoi qu'il en soit, l'incertitude pèse déjà sur les investissements britanniques en recul depuis plusieurs mois, sachant que la moitié des exportations sont destinés à l'Union européenne. La City et les milieux économiques sont sur le qui-vive et violemment opposés à un no deal. Meilleure garantie peut-être d'ailleurs pour que celui-ci soit évité.
Et côté français, quel impact économique?
Alors l'INSEE prévoit un repli de 0,6% du PIB en cas de hard Brexit, du fait du ralentissement des échanges entre les deux pays. Particulièrement inquiets, les pêcheurs bretons qui, faute d'accord, n'auraient plus accès aux eaux britanniques, avec à la clé des dizaines de milliers d'emplois menacés. Pour les entreprises qui commerce avec le Royaume-Uni. Un no deal, c'est d'abord de la paperasse, beaucoup de paperasse, avec de nouvelles déclarations de douane qu'il va falloir apprendre à remplir et potentiellement de nouvelles taxes à payer.
Et un no deal entraverait la circulation des biens, mais aussi des personnes, Louise.
Oui, on a d'ailleurs une petite idée de ce que cela pourrait donner. Gare du Nord à Paris, où une grève du zèle des douaniers provoque depuis un mois des files d'attente monstres au départ des Eurostar. Encombrement aussi dans les ports et à l'entrée du tunnel sous la Manche. C'est précisément ce qui pourrait arriver en cas de no deal, des contrôles beaucoup plus poussé, imposé aux voyageurs comme aux marchandises.
Et complications aussi pour ceux qui, dans un sens ou dans l'autre, voudraient s'installer de l'autre côté de la Manche.
Et oui, pour rester plus de 3 mois, il faudra maintenant un titre de séjour. Et pour ceux qui sont déjà installés, 3 millions d'Européens vivant au Royaume-Uni et 2 millions de Britanniques vivant sur le continent, eh bien, pour cela, il faudra réclamer un statut de résident de longue durée. Enfin, il ne sera plus possible d'importer les droits liés au travail et à la sécurité sociale de son pays d'origine en cas de no deal, bien sûr, mais aussi en cas de Brexit ordonné.
Merci Louise Baudet. La Banque Centrale Européenne appelle les marchés financiers à se préparer à ce risque croissant de sortie non négociée du Royaume-Uni. La BCE qui redoute des turbulences et qui se tient à disposition des banques britanniques pour leur prêter des euros si nécessaire. Des inquiétudes aussi pour le commerce international. Il connaîtra encore de fortes turbulences en 2019 et 2020 selon l'OMC. En 2018 déjà, la croissance a été plus faible qu'escomptée du fait de la montée des tensions commerciales et d'un accroissement de l'incertitude. L'Organisation mondiale du commerce juge urgent de résoudre les tensions. Bonsoir Marie Viennot.
Bonsoir.
La guerre commerciale a bien eu un effet sur la croissance du commerce mondial.
Oui, c'est ce que dit en effet l'OMC. Le commerce mondial a augmenté de 3% en 2018 alors qu'il avait augmenté de 4,7% en 2017. Mais l'impact des tensions commerciales est quand même difficile à quantifier, écrit l'Organisation mondiale du commerce dans son rapport, car certaines mesures de protection sont effectivement mises en place, alors que d'autres ne sont que des menaces. Or, les menaces menaces ont aussi un effet car elles accroissent l'incertitude et découragent l'investissement. Dans son rapport, l'OMC se garde donc bien de dire combien dans le ralentissement de la croissance du commerce mondial est imputable à Donald Trump, pour le dire rapidement. Ce qui est sûr, c'est qu'au dernier trimestre 2018, on a bien une réduction des importations, exportations de biens et services dans le monde, moins 0,3%, essentiellement en Asie et en Europe. Alors pourquoi dans ces deux zones? Parce que la croissance a ralenti. Le conflit commercial entre la Chine et les États-Unis a lui aussi joué, tout comme le Brexit, car cela rajoute de l'incertitude et décourage ou reporte les échanges. En décembre, ce qui a joué aussi, c'est les retards dans l'homologation des voitures allemandes aux normes anti-pollution, ce qui a conduit les Allemands à moins exporter leurs voitures. Alors là-dessus, il y aura un rattrapage sur 2019, mais dans l'hypothèse où les tensions commerciales en restent là et où les Américains n'ouvrent pas un nouveau conflit avec l'Europe et en premier lieu l'Allemagne. Le dossier, on le sait, est sur la table du président américain. Il a encore 6 semaines pour décider si oui ou non il impose des droits d'importation pour les voitures. L'impact de ce conflit serait alors beaucoup plus élevé que celui avec la Chine, a prévenu le directeur de l'OMC aujourd'hui, car les échanges Chine-USA représentent 3% du commerce mondial, alors que les échanges automobiles représentent 8% du commerce mondial.
Et dans son rapport, Marie, l'Organisation mondiale du commerce a tenté de quantifier l'impact économique des mesures les plus extrêmes.
Oui, un peu comme les banquiers centraux imposent des stress tests aux banques, les économistes de l'OMC ont imaginé une guerre commerciale mondiale et l'impact position de tarifs douaniers unilatéraux partout dans le monde. Eh bien, dans ce scénario, le PIB mondial chuterait de 2% en 2022, ce qui est comparable avec ce qu'il s'est passé en 2009 après la crise financière. Mais c'est un scénario extrême.
Marie Viennot. En Turquie, 2 jours après le scrutin municipal très serré, la saga électorale se poursuit à Istanbul. Alors que le candidat du principal parti d'opposition est en tête après le dépouillement de presque tous les bulletins, l'AKP, le parti du président Recep Tayyip Erdogan, annonce cet après-midi qu'il fait appel de ses résultats. Les précisions d'Alexandre Billet à Istanbul.
Le parti de Recep Tayyip Erdogan ne conteste pas seulement les résultats dans certains bureaux de vote, mais dépose un recours dans chacun des 39 arrondissements d'Istanbul, en évoquant des irrégularités et des écarts importants entre le nombre de votes réellement attribués au parti et les résultats qui ont été transmis aux conseils électoraux. Résultat, ce sont ces conseils électoraux locaux qui devront maintenant accepter ou pas ces demandes de réexamen de tous les bulletins de vote. Mais en cas de refus, l'AKP pourrait encore faire appel aux instances supérieures. Bref, le processus pourrait bien être prolongé jusqu'au 13 avril si le parti décidait de pousser la bataille juridique jusqu'au bout. En fait, les recours ne concernent pas seulement Istanbul, mais aussi certains quartiers d'Ankara qui ont été remportés par l'opposition, de même que des villes de province comme Yalova près d'Istanbul ou encore Eder et Kars tout à l'est du pays. Et comme pour bien rappeler que l'AKP ne se considérait pas encore vaincu, des affiches ont été posées un peu partout dans Istanbul, et des affiches avec le portrait de Recep Tayyip Erdogan qui remercie les électeurs, comme lors de ses victoires précédentes.
La NASA condamne fermement la destruction d'un satellite indien par New Delhi. Par ce tir réalisé la semaine dernière, l'Inde a voulu montrer qu'elle avait la capacité d'attaquer des orbiteurs espions ou ennemis. Mais selon l'agence spatiale américaine, les conséquences de cette opération peuvent être graves. Des dizaines de débris ont été envoyés dans l'espace et risquent d'endommager la station spatiale internationale. La correspondance de Sébastien Farcy à New Delhi.
La destruction du satellite par l'Inde est une opération terrible qui n'est pas compatible avec le futur des vols habités dans l'espace. La condamnation de l'administrateur de la NASA est sévère. Cette opération indienne a envoyé 60 débris de plus de 10 cm dans l'orbite proche de la Terre, dont 24 sont à une altitude suffisante pour endommager la station spatiale internationale. Les risques de collision ont ainsi augmenté de 44% en 10 jours, selon l'agence américaine. Mais en Inde, le débat est bien plus terrible. À terre. Nous sommes à 10 jours des élections législatives et le parti nationaliste hindou au pouvoir exploite cette prouesse technologique pour affirmer qu'il a transformé l'Inde en une nation puissante. Le premier ministre a même fait le rapprochement avec le bombardement de camps de terroristes pakistanais par l'aviation indienne en février et de clamer que l'Inde domine maintenant la terre, les airs et l'espace. Un discours messianique qui est repris par l'organisation hindouiste du RSS, le bras idéologique de ce gouvernement dont le but est de faire de l'Inde une nation pure, puissante et entièrement hindoue.
Sébastien Farcy, correspondant de France Culture en Inde. Le Canada se réchauffe. Selon une nouvelle étude sur le climat, la température a déjà augmenté au Canada de 1,7 degré depuis 1948 contre 0,8 degré en moyenne sur la planète. En clair, le réchauffement climatique est deux fois plus important au Canada qu'ailleurs. L'explication, Sandy Dauphin, ne vient pas de la politique environnementale, mais de la situation géographique particulière du Canada.
Depuis 1948, la température annuelle moyenne sur la planète a augmenté de 0,8 degrés. Au Canada, c'est le double et dans son grand nord, presque le triple. Plus on se rapproche des pôles, plus ça chauffe, explique Stephen Guilbeault. Cet écologiste canadien est également conseiller du gouvernement Trudeau sur les questions climatiques. Il est au micro de Radio-Canada.
Plus on s'éloigne de l'équateur en montant vers le nord, plus les températures se réchauffent. Rapidement. Donc, quand vous êtes rendu en Arctique, c'est pas deux fois plus vite que la moyenne planétaire, mais c'est quatre et même cinq fois plus vite que la moyenne planétaire. Donc, c'est un phénomène planétaire, c'est dû à notre géographie.
Ce rapport choc a été commandé par le gouvernement Trudeau en plein débat sur l'instauration d'une taxe carbone sur les carburants. La ministre fédérale de l'Environnement, Catherine McKenna, explique que c'est bien le signe qu'il faut agir plus vite sur Radio-Canada.
On a un rapport aujourd'hui qui démontre que le Canada se réchauffe deux fois plus vite que le reste du monde. Ça veut dire plus d'inondations, plus de feux de forêt, plus de température extrême. Nous devons prendre l'action.
Hier, justement, une taxe carbone sur les carburants est entrée en vigueur dans quatre provinces canadiennes. Taxe imposée par le gouvernement fédéral contre l'avis des dirigeants des provinces concernées.
Sandy Dauphin. Entamé le 15 janvier pour répondre à la fronde des Gilets jaunes, le grand débat national a permis de récolter près de 2 millions de contributions via Internet. Et aujourd'hui, ce sont les députés qui sont mis à contribution. Quatre débats thématiques sont organisés à l'Assemblée, transition écologique puis fiscalité aujourd'hui, demain démocratie et citoyenneté puis État et services publics. Des discussions sans vote, dont le principe a hérissé l'opposition qui a dit n'avoir aucune illusion sur l'issue du débat. Anne Fauquemberg, vous suivez ce grand débat à l'Assemblée. Le premier thème, c'est la transition écologique, un sujet directement en lien avec la crise des Gilets jaunes. Alors finalement, est-ce que les députés se prêtent au jeu ?
Eh bien, il n'y a pas foule dans l'hémicycle cet après-midi. Aurélie, à peine une centaine de députés. On sent une vraie lassitude autour de ce grand débat, même si pas question de perdre les 15 minutes de temps de parole octroyées actuellement à chaque groupe. Sophie Oconi, par exemple, députée UDI Agir, elle demande que la fiscalité sur les carburants soit réellement affectée à la transition écologique, mais aussi la suppression de certaines niches fiscales.
Je pense notamment aux 1400 sites industriels les plus pollueurs qui sont exonérés partiellement ou totalement de la taxe carbone et qui obtiennent la plupart de leurs quotas d'émissions gratuitement. Appliquons enfin à tous le principe du pollueur-payeur.
La députée insoumise Mathilde Panot enchaîne. Pour elle, l'écologie n'est plus soluble dans le capitalisme et elle s'en prend symboliquement aux géants de l'agrochimie, Bayer Monsanto.
Pour préserver la biodiversité, il faut mettre à bas l'un des empires les plus nocifs de l'histoire du XXe siècle et lutter pied à pied contre Bayer Monsanto. Pour que la bifurcation écologique soit entamée, il faut partager les richesses et imposer ce partage à ceux qui se gavent.
Le groupe communiste insiste sur l'isolation thermique dans le logement avec le député Hubert Vulfranc.
Nous vous demandons de respecter dès 2020 l'objectif de 500 000 logements par an en rénovation thermique dans le parc social et privé. Mieux isolé, vous le savez, le logement consomme moins d'énergie et les charges baissent. C'est juste et écologique.
Voilà, un débat sur la transition écologique qui va se poursuivre jusqu'à 20h ici au Palais Bourbon avec dans un second temps des questions-réponses aux membres du gouvernement. Les quatre concernés par l'environnement sont restés après les questions au gouvernement. Il s'agit de François de Rugy, Brune Poirson, Emmanuel Wargon et Elisabeth Borne qui écoutent sagement pour le moment les interventions des députés.
Anne Fauquemberg en direct de l'Assemblée nationale avec Éric Gérard à la technique. Encore une étape du grand débat en Corse. Emmanuel Macron s'y rend jeudi et le chef de l'État a accordé en amont de cette visite un entretien à Corse Matin. Le président dit arriver avec la volonté d'un dialogue et de respect républicain. Il affirme avoir de la considération pour les Corses. Pourtant, les dirigeants nationalistes ont décidé de boycotter ce rendez-vous. Le président de l'Assemblée de Corse, Jean-Guy Talamoni, explique pourquoi à Rosalie Lafarge.
Le président de la République française et son gouvernement continuent à ignorer superbement le projet pour lequel nous avons été élus il y a presque un an et demi. à la majorité absolue, 56% des Corses ont validé un projet dont pas un seul aspect n'est aujourd'hui retenu par le gouvernement et le président de la République. Je pense qu'il y a là un mépris affiché des élus de la Corse d'un projet qui a été validé par le suffrage universel. Là, on est vraiment très très mal parti. Il y a effectivement une tension en Corse, une tension qui s'aggrave au fil des mois, parce que de nombreux Corses, y compris d'ailleurs des Corses qui n'ont pas voté pour leur majorité, considèrent comme tout à fait anormal que l'on ne prenne pas en compte le résultat du suffrage universel en Corse. Nous avons tout fait pour que l'apaisement soit consolidé. Enfin, cet apaisement, il faut aussi le consolider du côté parisien. Et ça ne peut être fait que par le respect des institutions, le respect des élus, l'ouverture d'un véritable dialogue. Voilà, nous n'avons pas la volonté de pratiquer la politique de la chaise vide. Ce dialogue, nous le souhaitons. Mais évidemment, un dialogue sérieux ne peut pas être organisé comme la réunion de jeudi. Nous espérons que le président de la République va prendre conscience de la nécessité d'ouvrir un dialogue avec la Corse. Ça ne veut pas dire qu'on sera d'accord sur tout, mais au moins qu'on prenne en compte ce que les Corses ont décidé pour leur vote.
Jean-Guy Talamoni, président indépendantiste de l'Assemblée de Corse. La ministre de la Santé s'est rendue aujourd'hui à Lerme, près de Toulouse. Agnès Buzyn a rencontré des résidents et le personnel de l'EHPAD de la Chêneraie, où 5 personnes âgées sont mortes dimanche, probablement à cause d'une intoxication alimentaire. Pour la ministre, cette affaire montre l'urgence d'une réforme de la prise en charge des personnes âgées et de la dépendance.
Je n'ai pas attendu cet événement pour savoir qu'il y avait une urgence et un besoin de réformer aujourd'hui l'organisation de la prise en charge de nos aînés. Nous savons aujourd'hui que beaucoup de personnes âgées souhaitent rester à domicile, elles ne le peuvent pas. Nous savons que les personnels qui travaillent en EHPAD ont des conditions de travail difficiles. Il faut les accompagner mieux, il faut les former, il faut leur donner des perspectives de carrière. Nous savons qu'il y a un enjeu de financement de tout cela, que le reste à charge des familles est très élevé. Tout ça est très angoissant, ça remonte du grand débat. Les Français le disent et donc c'est une urgence pour moi que de proposer cette réforme et je pense que ce sera une réforme qui apaisera et qui rassurera l'ensemble des Français que nous sommes, ceux qui déjà prennent en charge des personnes âgées, certains de leurs proches ou celles qui, comme moi, vont devenir âgées assez rapidement.
La ministre Agnès Buzyn au micro de François Rivalan. 566 morts recensés dans la rue l'année dernière, parmi lesquels 50 femmes et 13 mineurs. C'est le chiffre révélé par le collectif Morts de la rue. L'association recense chaque année les décès des personnes sans-abri pour tenter d'en faire une liste exhaustive, mais elle estime être très loin du compte. Cet après-midi, le collectif a voulu alerter les passants parisiens en organisant un hommage à ces morts dont la moyenne d'âge est de 48 ans. Écoutez le reportage de Maud Calves au jardin Villemain dans le 10e arrondissement.
Villain, Diki, 69 ans, le 16 août, à Bastia. Un homme, 58 ans.
À l'entrée du jardin, des pétales rouges, des pots de fleurs parsèment les chemins. Dessus, nom, prénom, parfois même la photo de ces morts de la rue. Au bout, il y a le kiosque. Tout autour, plusieurs bénévoles lisent en boucle le nom des victimes.
Jean-Michel, 67 ans.
4 stands répartis par saison, tellement la liste est longue.
Sophie Papiot, j'ai 46 ans. J'étais à la rue pendant 20 ans.
Sophie vit aujourd'hui en HLM. Elle a rejoint le collectif Les Morts de la Rue. Une problématique qu'elle connaît bien. Plusieurs de ses proches ont disparu. Mais quand on lui demande combien...
Oh là, je ne les compte plus. Mais beaucoup. Petit Louis, il est au distributeur à Gare de Lyon. Il s'est fait agresser. Jackie, à cause de l'alcool. Et tant d'autres. À la rue, on n'en parle pas trop de la mort. Ça fait peur. Quand il y a un copain qui décède, ça nous touche. Mais... faut faire avec, c'est la vie.
Selon le collectif, un tiers des morts sont dus aux maladies, un tiers de suicides, meurtres ou accidents. On ne connaît pas les causes du dernier tiers. Deux points communs à tous, une dizaine d'années minimum passées dans la rue et l'épuisement, un déclencheur de décès pour Cécile Roca, la coordinatrice du collectif.
C'est des vies qui sont extrêmement fatigantes, extrêmement stressantes. Et en fait, les gens, ils meurent soit parce qu'ils ont des incidents de santé dus à tout ça, soit parce qu'il pète un plomb à un moment donné, se mettant en danger, du coup, ayant des conduites à risque.
566, c'est le nombre donné cette année, mais l'association estime la réalité 6 fois plus importante, mais impossible de tous les compter. Le collectif a donc embauché un épidémiologiste, Ramis Saba, pour le faire.
Beaucoup sont des migrants qui arrivent en France et qui ne sont pas encore connus par les maraudes ou par les associations. Beaucoup sont décédés dans des circonstances dramatiques et donc même leur corps n'est pas reconnaissable. Donc on a une équipe de bénévoles qui appelle les institutions, les associations pour essayer de trouver d'abord l'identité et puis trouver quelqu'un qui l'a connu.
Ce rapport est ensuite envoyé au ministère de la Santé, sorte de plaidoyer statistique pour alerter sur la gravité de la situation.
Jamel, le 3 février 2019 à Paris 5e.
Dernier adieu à Agnès Varda. La cinéaste a été inhumée en début d'après-midi au cimetière du Montparnasse à Paris. Et ce matin, un hommage lui a été rendu à la Cinémathèque française. Demain, mercredi, le temps sera très agité avec des averses et des orages. Et il va faire plus froid, de 0 à 2 degrés le matin en Bretagne et en Auvergne, 3 à 9 ailleurs. Les maximales iront de 8 à 13 degrés jusqu'à 15 sur la Côte d'Azur. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.